Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Onzième épisode.
Marius découvre que Cosette et son père ont quitté la rue Plumet. Paris se soulève au moment de l'enterrement du général Lamarque. Des barricades s'édifient dans le quartier des Halles. Tous se préparent au combat. L'inspecteur Javert s'infiltre, mais il est reconnu par Gavroche. Il est fait prisonnier. Marius rejoint ses amis dans la barricade. Il sauve Gavroche en tirant sur ses assaillants. Éponine sauve Marius en s'interposant dans une fusillade. Touchée, elle meurt dans ses bras en lui remettant une lettre.
Marius n'avait pas pris sans un tressaillement la lettre qu'Éponine lui avait donnée. Il avait tout de suite senti là un événement. Il était impatient de la lire. Le cœur de l'homme est ainsi fait. L'infortuné enfant avait à peine fermé les yeux que Marius songeait à déplier ce papier. Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait lire cette lettre devant ce cadavre. Il s'approcha d'une chandelle dans la salle basse.
Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme Armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. Cosette, 4 juin.
Il avait sur lui un portefeuille, en arracha une feuille et écrivit:
notre mariage est impossible. J'ai demandé à mon grand-père, il a refusé. Je suis sans fortune, et toi aussi. Tu sais la parole que je t'ai donnée. Je la tiens. Je meurs et je t'aime.
Il se borna à plier le papier et y mit cette adresse: à Mademoiselle Cosette Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7. Il reprit son portefeuille et écrivit ces 4 lignes.
Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, Monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais.
Gavroche, vas-tu faire quelque chose pour moi?
Tout. Dieu du bon Dieu, sans vous, vrai, j'étais cuit.
Tu vois cette lettre? Sors de la barricade sur le champ et demain matin, tu la remettras à son adresse.
Ah mais, pendant ce temps-là, on prendra la barricade et je n'y serai pas.
La barricade ne sera plus attaquée qu'au point du jour et ne sera pas prise avant demain midi.
C'est bon. Je vais porter la lettre tout de suite.
Qu'est-ce que les convulsions d'une ville auprès des émeutes de l'âme? L'homme est une profondeur plus grande encore que le peuple. Jean Valjean, en ce moment-là même, était en proie à un soulèvement effrayant. La veille de ce même jour, 5 juin, accompagné de Cosette et de Toussaint, il s'était installé rue de l'Homme Armé. Une péripétie l'y attendait. Comme il marchait de long en large à pas lents, son regard rencontra tout à coup quelque chose d'étrange. En face de lui, dans le miroir incliné qui surmontait le buffet, il lut les 4 lignes que voici. « Mon bien-aimé, hélas, nous serons ce soir rue de l'Homme Armé, numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. Cosette, 4 juin. » Le miroir reflétait l'écriture imprimée sur le buvard. C'était simple et foudroyant. Jusqu'à ce jour, Jean Valjean n'avait pas été vaincu par l'épreuve. Hélas, l'épreuve suprême, unique, c'est la perte de l'être aimé. Il aimait Cosette comme sa fille, comme sa mère, comme sa sœur. Père étrange forgé de l'aïeul, père dans lequel il y avait même une mère, il avait cet enfant pour lumière, pour demeure, pour famille, pour patrie, pour paradis. Après qu'il eut bien constaté qu'au fond de cette situation, il y avait ce jeune homme, lui, Jean Valjean, l'homme qui avait tant travaillé son âme, regarda en lui-même et il y vit un spectre, la haine. Tandis qu'il songeait, Toussaint entra.
Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure qu'on se bat?
Oui, monsieur. C'est du côté de Saint-Méry.
Jean Valjean se trouva 5 minutes après dans la rue. Il était nu-tête, assis sur la borne de sa maison. On entendait le tocsin et de vagues rumeurs orageuses. Tout à coup, il entendit quelques pas près de lui. Gavroche venait d'arriver rue de l'Homme Armé. Il se haussait sur la pointe des pieds et tâtait les portes et les fenêtres des rez-de-chaussée.
Petit, qu'est-ce que tu as ?
J'ai faim.
Où a-t-il la faim ? Tiens.
Bourgeois, on ne me corrompt point.
As-tu une mère ?
Peut-être plus que vous.
Eh bien, garde cet argent pour ta mère.
Vous êtes un brave homme. Pourriez-vous m'indiquer le numéro 7 ?
Est-ce que c'est toi qui m'apporte la lettre que j'attends ? La lettre est pour Mademoiselle Cosette, n'est-ce pas ?
Cosette ? Oui, je crois que c'est ce drôle de nom-là.
Eh bien, c'est moi qui dois lui remettre la lettre. Donne.
En ce cas, vous devez savoir que je suis envoyé de la barricade. Tenez, respect à la dépêche, elle vient du gouvernement.
Est-ce à Saint-Méry qu'il faudra porter la réponse ?
Vous feriez là une de ces pâtisseries vulgairement nommées brioches. J'y retourne. Bonsoir, citoyens !
Dans le billet de Marius, Jean Valjean ne vit que ces mots. Je meurs. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi. Il eut un éblouissement horrible. Il avait devant les yeux cette splendeur, la mort de l'être haï. Environ une heure après, il sortait en habit de garde national en armes et se dirigeait du côté des Halles. Enjolras s'était allé faire une reconnaissance. Il était sorti par la ruelle Mondétour. Les insurgés, disons-le, étaient pleins d'espoir. La façon dont ils avaient repoussé l'attaque de la nuit leur faisait dédaigner d'avance l'attaque du point du jour. Ils l'attendaient et en souriaient. Enjolras reparut.
Toute l'armée de Paris donne. Un tiers pèse sur la barricade où vous êtes. De plus, la garde nationale. Vous serez attaqué dans une heure. Quant au peuple, il a bouillonné hier, mais ce matin, il ne bouge pas. Rien à attendre. Rien à espérer. Vous êtes abandonnés.
Soit.
Élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y tous. Citoyens, faisons la protestation des cadavres. Montrons que si le peuple abandonne les républicains n'abandonnent pas le peuple.
Vive la mort ! Restons tous ici !
La République n'est pas assez riche en hommes pour faire des dépenses inutiles. La gloriole est un gaspillage. Si pour quelques-uns, le devoir est de s'en aller, ce devoir-là doit être fait comme un autre. Avec cet uniforme de garde nationale, on se mêle au rang et l'on s'échappe. Voici toujours pour quatre.
Enjolras a raison. Pas de sacrifice inutile. Il faut se hâter. Il y en a parmi vous qui sont des soutiens de famille. Que cela sorte des rangs.
Personne ne bougea.
Dépêchons. Dans un quart d'heure, il ne sera plus temps.
C'est ici la République et le suffrage universel règne. Désignez vous-même ceux qui doivent s'en aller.
Ils sont cinq.
Il n'y avait que quatre uniformes. Et en cet instant, un cinquième tomba. Marius leva les yeux et reconnut Monsieur Fauchelevent. Jean Valjean venait d'entrer dans la barricade.
Quel est cet homme ?
Un homme qui sauve les autres.
Je le connais.
Citoyens, soyez le bienvenu. Vous savez que nous allons mourir.
Jean Valjean, sans répondre, aida l'insurgé qu'il sauvait à revêtir son uniforme. La situation de tous, dans cette heure fatale, avait comme résultante et comme sommet la mélancolie suprême d'Enjolras. Il avait en lui la plénitude de la révolution. Il était incomplet pourtant, autant que l'absolu peut l'être. Il sortait de la forme étroite du dogme et se laissait aller aux élargissements du progrès. Et il en était venu à accepter comme évolution définitive et magnifique la transformation de la grande République française en immense république humaine. Tout à coup, il dressa la tête.
Citoyens, vous représentez-vous l'avenir ? Les rues des villes inondées de lumière ? Les nations sœurs ? Les hommes justes ? Le passé aimant le présent ? Les penseurs en pleine liberté ? La fraternité de l'atelier et de l'école. À tous, le travail. Et pour tous, le droit. Sur tous, la paix. C'est là la gestation du 19e siècle. Ce qu'avait ébauché la Grèce est digne d'être achevé par la France. Entendons-nous sur l'égalité. Car si la liberté est le sommet, l'égalité est la base. L'égalité a un organe. L'instruction gratuite et obligatoire. Le droit à l'alphabet. Citoyens, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux. Le genre humain sera délivré, relevé, consolé. Nous le lui affirmons sur cette barricade. Frère qui meurt ici, meurt dans le rayonnement de l'avenir. Et nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore.
Les cinq hommes désignés sortirent de la barricade par la ruelle Mondétour. Ils ressemblaient parfaitement à des gardes nationaux. L'un d'eux s'en alla en pleurant. Avant de partir, ils embrassèrent ceux qui restaient. Enjolras pensa aux condamnés à mort. Il entra dans la salle basse. Javert, lié au pilier, songeait. Un homme, sur le seuil de la porte, le considérait avec une attention singulière. Javert leva les yeux et reconnut Jean Valjean. Le jour croissait rapidement. Une pièce de canon apparut. Toute la barricade fit feu.
Rechargez les armes!
Pendant que les insurgés rechargeaient les fusils, les artilleurs chargeaient le canon. Et en même temps que le boulet sur la barricade, Gavroche s'abattit dedans. Il fit plus d'effet que le boulet.
Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Tiens, et vous?
Qui est-ce qui te disait de revenir? As-tu au moins remis ma lettre à son adresse?
Citoyen, j'ai remis la lettre au portier.
Cependant, une compagnie d'infanterie de ligne était venue occuper l'extrémité de la rue en arrière de la pièce. Les soldats dépavaient la chaussée et y construisaient avec les pavés une petite muraille basse. Enjolras, au guet, vit le chef de pièce changer le pointage et incliner légèrement la bouche du canon à gauche. Puis, les canonniers se mirent à charger la pièce.
Baissez la tête, ralliez le mur, tous à genoux le long de la barricade!
La décharge se fit avec le râle effrayant d'un coup de mitraille. La charge avait été dirigée sur la coupure de la redoute, y avait ricoché sur le mur, et ce ricochet épouvantable avait fait 2 morts et 3 blessés. Il y eut une rumeur de consternation.
Empêchons le second coup.
Et en abaissant sa carabine, Enjolras ajusta le chef de pièce qui, en ce moment, fixait définitivement le pointage. C'était un beau jeune sergent de canonnier, blond, à la figure très douce, avec l'air intelligent propre à cette arme redoutable qui, à force de se perfectionner dans l'horreur, doit finir par tuer la guerre.
Quel dommage. La hideuse chose que ces boucheries. Enjolras, tu vises ce sergent. Tu ne le regardes pas. On pourrait être ton frère.
Il l'est.
Eh bien, ne le tuons pas.
Laisse-moi. Il faut ce qu'il faut.
Et une larme coula lentement sur la joue de marbre d'Enjolras. L'artilleur tourna 2 fois sur lui-même, puis se renversa le flanc sur la pièce et y resta sans mouvement. Il était mort. Les avis se croisaient dans la barricade. Il était absolument nécessaire d'amortir les coups.
Il faut mettre là un matelas.
On n'en a pas, les blessés sont dessus.
Jean Valjean, assis à l'écart sur une borne, son fusil entre les jambes, n'avait jusqu'à cet instant pris part à rien de ce qui se passait. À l'ordre donné par Enjolras, il se leva. Une vieille femme, prévoyant les balles, avait mis son matelas devant sa fenêtre. Ce matelas était soutenu en haut par 2 cordes.
Quelqu'un peut-il me prêter une carabine à 2 coups ?
Enjolras lui tendit la sienne. Jean Valjean tira. Le matelas glissa et tomba dans la rue. Jean Valjean sortit de la coupure, entra dans la rue traversa l'orage de balles et chargea le matelas sur son dos. Il revint dans la barricade.
Citoyens, la République vous remercie.
Triomphe de ce qui plie sur ce qui foudroie. Gloire au matelas qui annule un canon. Ouais,
écoutez. Il me semble que Paris s'éveille.
Le soleil montait sur l'horizon. Tous étaient prêts. La barricade qui se taisait fit feu éperdument. La rue s'emplit d'une fumée aveuglante.
Encore un quart d'heure de ce succès et il n'y aura plus 10 cartouches.
Gavroche, qu'est-ce que tu fais là ?
Citoyens, j'en ai mon panier.
Tu ne vois pas la mitraille ?
Eh bien, il pleut. Et après ?
Rentre !
Gavroche était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Gavroche rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre. À force d'aller en avant, les tirailleurs massés à l'angle de la rue se montrèrent quelque chose qui remuait dans la fumée. Une balle frappa un cadavre.
Fichtre ! Voilà comme tu m'es mort.
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche se dressa tout droit, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta.
On est les à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête à pas les os, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé taquinait la fusillade. Une balle mieux ajustée que les autres finit par atteindre l'enfant feu follet. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup.
Par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à...
Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Combeferre ramena le panier de cartouches. Marius rapporta l'enfant. Hélas, pensait-il, ce que le père avait fait pour son père, il le rendait au fils. Seulement Thénardier avait rapporté son père vivant. Lui, il rapportait l'enfant mort. Tout à coup, entre deux décharges, on entendit le son lointain d'une heure qui sonnait.
Il est midi.
Montez les pavés dans la maison. Garnissez-en le rebord de la fenêtre et des mansardes. La moitié des hommes au fusil. L'autre moitié au pavé. Pas une minute à perdre. Je vais donner les derniers ordres dedans. Toi, Marius, reste dehors et observe. Au premier étage, tenez des haches prêtes pour couper l'escalier. Les attends ?
Oui.
Nous sommes 26 combattants debout. Combien y a-t-il de fusils ?
34.
Aux ceintures, les sabres et les pistolets. 20 hommes à la barricade. 6 embusqués aux mansardes et à la fenêtre du premier pour faire feu sur les assaillants. Tout à l'heure, quand le tambour battra la charge, que les 20 d'en bas se précipitent à la barricade. Et toi, Javert, je ne t'oublie pas. Le dernier qui sortira d'ici cassera la tête à cet espion.
Vous m'avez remercié tout à l'heure. Pensez-vous que je mérite une récompense ?
Certes.
J'en demande une. Brûlez moi-même la cervelle de cet homme-là.
C'est juste.
Pas de réclamation ? Prenez le mouchard. Tous dehors !
Quand Jean Valjean fut seul avec Javert, il défit la corde et, l'entraînant avec lui, sortit du cabaret. Lentement, car Javert, entravé aux jambes, ne pouvait faire que de très petits pas. Il lui fit escalader le petit retranchement de la ruelle Mondétour. Ils se trouvèrent seuls dans la ruelle. Jean Valjean mit le pistolet sous son bras.
Prends ta revanche. Un sur un. Tu as raison, cela te convient mieux.
Jean Valjean coupa la ficelle qu'il avait au pied.
Vous êtes libre. Je ne crois pas que je sorte d'ici. Pourtant, si par hasard j'en sortais, je demeure sous le nom de Fauchelevent, rue de l'Homme Armé, numéro 7.
Prends garde.
Allez!
Vous m'ennuyez. Tuez-moi plutôt.
Allez-vous-en.
Quand Javert eut disparu, Jean Valjean déchargea le pistolet en l'air. Puis il rentra dans la barricade et dit « C'est fait ». L'agonie de la barricade allait commencer. « Dieu est peut-être mort », disait un jour à celui qui écrit ces lignes Gérard de Nerval, confondant le progrès avec Dieu et prenant l'interruption du mouvement pour la mort de l'être. « Qui désespère a tort ? Le progrès se réveille infailliblement. La grandeur et la beauté de la France, c'est qu'elle se noue plus aisément la corde au rein. Elle est la première éveillée, la dernière endormie. Elle va en avant, elle est chercheuse. Cela tient à ce qu'elle est artiste. Chose admirable, la poésie d'un peuple est l'élément de son progrès. La quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination. Un mot encore avant de rentrer dans la mêlée. Une bataille comme celle que nous racontons en ce moment n'est autre chose qu'une convulsion vers l'idéal. Tout à coup, le tambour battit la charge. L'attaque fut l'ouragan. La veille, dans l'obscurité, la barricade avait été approchée silencieusement, comme par un boa. À présent, en plein jour, dans cette rue évasée, l'armée se rua, la furie était maintenant l'habileté, la troupe voulait en finir. Les assauts se succédèrent, l'horreur alla grandissant.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 11e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Aurélie Nusillard, Cosette, Clément Bondu, Marius, Rémi Goutalier, Gavroche, Jean-Marie Vilning, Jean Valjean, Emmanuel Lemire, Enjolras, Roland Timsit, Courfeyrac, Philippe Bautier, L'Aigle, Niki Marbeau, Combefer, Vincent Schmitt, Javert. Et les voix d'Anna Gaylor, Jacques Poitrier, Pierre Yvon, Michel Baladi, Bertrand Suarez-Passos et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.